Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Bienvenue pour une nouvelle émission. Je vous avais promis que Saïd reviendrait, qu'on allait faire un petit bilan du combat. On est là, on est chaud. Il s'était même pas il y a 24 heures le combat. Saïd, il a à peine dormi, il est réveillé, il a passé des coups de fil à tout le monde. Il a eu le temps de laisser le combat un peu reposer dans sa tête. Saïd, comment ça va après cette nuit de boxe, le retour de l'OMA?
Alors bien fatigué mon pote, effectivement j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pris un avion tard pour arriver tôt ce matin à Los Angeles. Très émotionnel, beaucoup d'émotions Jean-Charles. Tu sais quand t'es investi avec les boxeurs et quand c'est des gens que tu connais personnellement, déjà en tant que passionné de boxe on est tous investis, mais quand c'est des gens proches, je trouve pas les mots. Bref, c'était très intense. Très, très intense. Alors, par où commencer, Jean-Charles? Je vais te laisser parce que, justement, tu es extérieur au clan et j'aimerais avoir ta vision à toi et puis je vais t'expliquer ce qui s'est passé.
Ok, bah ça va être intéressant. Je vais donner un peu mon avis sur l'ensemble. J'ai trouvé à Lomachenko déjà avant le combat, qui était concentré, qui avait envie d'y aller. Bon, là, je l'ai senti dans le bain. Déjà, tu vois, parfois on sent des boxeurs qui sont un peu stressés, qui sont un peu en dehors. Lui était dedans. Tu vois, par exemple, avec Usyk, on pouvait se demander si la mise en scène, tout ça pouvait cacher un petit peu un stress autour de ce combat. Lomachenko, je l'ai senti beaucoup plus sobre qu'à l'ordinaire. Voilà, vraiment dans son combat. Pareil. Pendant le combat, c'est pas un Loma qui a fait du show. C'est un Loma qui est resté le plus appliqué du début à la fin du combat. J'ai vu un Loma qui, c'est un combat de reprise. C'est un combat de reprise, donc la machine n'est pas encore bien bien huilée. On a senti que les jambes étaient encore un peu lourdes. Il fallait quelques rounds pour se retrouver. Ortiz fait un grand combat. Il est toujours dans le timing. Il est toujours dans le combat. Il l'emmerde jusqu'au bout. Loma démarrait bien les rounds. Et on sentait les fins de round un peu plus compliquées, un peu plus laborieux. Parfois, Ortiz était plus dangereux en fin de round. Pour moi, c'est un combat très équilibré, très serré. Première vision, je te le dis, Saïd, je vois Ortiz gagnant. Vraiment.
Oui, alors, effectivement, d'abord, il y a toujours un décalage entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit en live. C'est toujours un peu délicat. Rappelle-toi ce que je t'ai dit quand on s'est parlé la première fois. On n'a jamais fait de cadeau à Loma. On lui a toujours donné ce qui se fait de mieux. Les gens ne se rendent pas compte. Ortiz, gaucher, comme j'expliquais auparavant, gros technicien, et puis 25 ans, 26 ans dans la fleur de l'âge. Là, tu te bats avec quelqu'un qui a toutes ses capacités, qui a faim et qui en veut. Donc, le premier problème de Loma a été, dans l'adversité, ça a été de se battre contre la jeunesse et la fougue d'un artiste qui est arrivé complètement décomplexé et qui a su saisir sa chance et son opportunité. Ensuite, on va reprendre depuis le début. Tu sais, avec mon expérience, moi qui fréquente les boxeurs et les salles de boxe depuis près de 27 ans maintenant, presque 30 ans, la chose la plus dangereuse, l'ennemi le plus dangereux d'un boxeur, c'est une seule chose, c'est la non-activité. Ce qu'on appelle le ring rust en anglais. Quand un sportif de ce niveau-là, un combattant, ne pratique pas son art et ne s'entraîne pas régulièrement et ne surtout ne fait pas de sparring, c'est la chose la plus dangereuse qui peut arriver à un boxeur. Pas d'excuses. Loma gagne le combat, c'est serré, mais il fait ce qu'il faut pour gagner le combat. On a eu affaire à un gros combat de technicien, à un jeu d'échecs de très haut vol. Même si Ortiz, quelque part, gros technicien qu'il soit, a peut-être 80% de ses coups ont été dans l'air. Il a frappé le vent. Alors, c'était super impressionnant parce qu'il y a beaucoup d'activité, beaucoup de mouvements. Ça peut impressionner un peu le public, quelques juges des fois, mais pas les vrais connaisseurs. C'est-à-dire qu'il nous fait un super travail, il lance sa machine, etc. Mais la majorité des coups ne touchent pas. Ça, c'est une chose. Donc, Loma revenant d'un an et demi d'inactivité, Loma, 33 ans, la guerre en Ukraine, tu sais, il a travaillé toute sa vie, il a économisé le moindre penny, le moindre dollar, le moindre euro qu'il a gagné sur le ring, à la force de ses poings, de sa sueur, de son sang, il l'a réinvesti dans un superbe hôtel. Cet hôtel a failli être explosé par les bombes en Ukraine. On ne se rend pas compte de la réalité de la guerre. Nous, on est devant notre télé, on ne se rend pas compte. Tout ce que tu as travaillé peut être mis en danger. Ta famille est en danger. Donc, tu es dans une instabilité émotionnelle compliquée. Tu sais pas s'il faut se battre, s'il faut partir s'entraîner, s'il faut s'occuper. Pas d'excuses, mais ça joue. Donc, c'est surtout un an et demi d'inactivité. Les conséquences de la guerre, c'est ça. Et à 33 ans, quand tu t'éloignes des rings, ça veut dire que tu fais pas ton footing, ça veut dire que tu t'entraînes pas et ça veut dire que tu mets pas les gants. Tu peux retirer tout ce que tu veux à un boxeur. Tu peux lui retirer la nutrition, tu peux lui retirer les séances de sac, les séances de pattes d'ours, tout ce que tu veux. Mais tu peux pas lui retirer le sparring. Un boxeur en activité, c'est un boxeur qui fait du sparring. Le sparring est la chose et la composante la plus importante de toutes les préparations de boxe. Fais du sparring tous les jours et ne va même pas courir si tu veux. Tu seras prêt pour combattre. Donc, inactivité plus les problèmes de la guerre. Et en même temps, on n'a jamais fait de cadeau à Loma. Ortiz, top, top, top fighter. Et je savais que ce combat allait redéfinir toute la division. C'était le combat qui allait définir cette division des super légers qui est super excitante, qui est peut-être la division la plus excitante de la boxe en ce moment, où il y a une conversion de talent exceptionnelle. D'ailleurs, je serais curieux de voir un Ortiz contre Haney. Ça serait quelque chose d'intéressant à voir après ce que Ortiz nous a démontré ce soir. Donc Loma, avec son expérience et sa grande maturité, il a géré. Il a vu que c'était compliqué et il a commencé à analyser. Pendant les premiers rounds, il a enregistré les données pour pouvoir ensuite enclencher la Matrix. Mais ça a mis du temps. La Matrix, la machine ne voulait pas se remettre en place. C'est comme un moteur qui avait du mal à démarrer. On sait qu'il a les chevaux, on sait qu'il a ce qu'il a sous le capot, mais voilà, ça rouille un peu, l'essence ne passe pas, le carburateur est enroué. Et puis tout doucement, c'est là où on voit les grands, grands, grands boxeurs et les grands champions. Il fait les ajustements. Et au fur et à mesure, il règle. Comme une montre suisse, non ? Et tout doucement, la deuxième partie du combat, on comprend qui est qui. Donc, c'est surtout un manque de ring qui nous a manqué. Et en même temps, c'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. C'est-à-dire, pas de cadeau, un combat de rentrée super dur. Parce que ça, ce n'est pas un tune-up fight, hein, ce n'est pas un combat de retour. C'était un combat de très haut niveau. C'était presque un championnat du monde. Vu le niveau technique qu'ils nous ont proposé, c'était très sérieux. Donc, la meilleure façon de revenir dans la division, tu sais, en rentrant à l'hôtel, Loma, il me prend dans un coin et il me dit, Saïd, ok, on y est, il me reste 3 ans et je veux que tu m'amènes pendant toute cette année jusqu'au combat de Haney, les meilleurs sparring du monde. Je veux sparer toutes les semaines, minimum 3 fois par semaine. C'est notre dernière ligne droite, on y est, ça va être dur de nager sans se mouiller. C'est le moment. Donc moi, on va s'occuper de ça. Mais effectivement, combat technique qui à première vue peut nous paraître presque un match nul, voire même presque une victoire d'Ortiz. Mais après analyse sereine, en laissant les émotions retomber, parce que tu sais, c'est très bien qu'après, il faut jamais prendre de décision quand t'es émotionnel. C'est toujours difficile, c'est toujours délicat et c'est très très dangereux. C'est pour ça qu'on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que tu attends que ça redescende et ensuite tu le fais avec ta raison et pas avec tes émotions ou d'un coup tu t'embrouilles avec ta femme et tu fais n'importe quoi. Donc, c'est pas évident. Mais très fier de son accomplissement et c'était la meilleure façon de vous rappeler que la division est très compliquée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Tout le monde a très, très, très faim. Mais que Loma est à la hauteur pour le challenge et que là maintenant, la machine est relancée. Et on va faire ce qu'il faut faire.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu vois, j'ai revu le combat. C'est un combat très, très bon techniquement. Très, très intéressant, très subtil. C'est de la belle boxe. Moi, j'ai revu mon jugement à un match nul. J'ai compté les rounds. Et j'ai fait un sondage. À la majorité, les gens voient Loma gagnant. Comme toi, donc, voilà, je me mets du côté du peuple. Il n'y a pas de souci. Quand j'ai vu ce combat-là, Saïd, il y a deux choses que je me suis dites. C'est un combat de reprise compliqué. Tu vois, vraiment, comme on l'avait dit déjà avant, on l'avait déjà dit, c'est pas un cadeau. Mais en plus, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un combat de reprise compliqué. Mais ça peut être un combat de reprise très intéressant quand on vise Haney et quand on sait ce qui a posé problème contre Lopez. Est-ce que ce Ortiz-là, vous vous attendiez à ce qu'il propose exactement ce qu'il faut pour travailler quand on vise Haney? Est-ce que c'était ciblé?
Je sais pas si tu sais, comme je te disais, la personnalité de Loma est importante à mettre en compte. C'est quelqu'un de très religieux, de très timide, de très introverti, qui ne manque de respect à personne, même pas à une petite mouche. Il a un respect profond pour tout ce qui vit sur cette terre. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que c'est pas du jeu, quoi. C'est pour de vrai. Le mec est comme ça. À la fin, il est presque même maladroit. Il donne la ceinture à Ortiz pour qu'il fasse comprendre que c'est pas ça son but. Il est pas là pour ça. On connaissait Ortiz. Il est venu, il a fait 5 mois de sparring avec nous pour la préparation du combat contre Comey. Il savait ce qu'il attendait. Mais là, on a eu un Ortiz très, très remonté qui allait saisir sa chance, quoi. C'était son moment. Mais lui-même, à la fin, j'ai été le voir, il me l'a dit. Loma a gagné. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai fait presque ce qu'il fallait, mais j'ai pas assez touché. Et à la fin, il m'a rattrapé. Et il faut voir la tête de Ortiz à la fin. Loma, il a son truc sous l'œil qui est dû au scotch des gants. Ils utilisent
un frottement
abrasif, abrasif et ça a frotté et ça lui a fait, c'est pas un coup ni un coup de tête. Hein. Quand tu regardes la tête de Loma, il est impeccable à la fin. Il a pris très peu de coups parce qu'il a tout bloqué et la majorité était dans les airs. Il tapait l'air. Il visait, il touchait pas Loma. Donc c'est impressionnant. Il y a un gros débit. Il y a du rythme. Mais quand tu es un connaisseur et que tu dois compter les points, le résultat est un peu différent. Même si mes respects à Ortiz, et je pense qu'il a un brillant avenir devant lui. J'en ai reparlé aussi avec Bob Arum. Tu sais, Bob Arum, il est dans le boxing business. Loma ou Ortiz, il s'en fout. Il irait même plutôt vers les jeunes. Et il m'a dit non, Loma a gagné. Et il a fait ce qu'il fallait et il mérite son combat contre Haney. Même si l'affiche est plus intéressante, Haney, Loma, parce que c'est deux stars. Tu vois. Donc, pour le grand public, c'est génial. Mais à un moment donné, skills pays the bills. Like we said, non, c'est tes compétences qui payent les factures. Et Ortiz a fait un grand combat. Ouais, il nous a manqué un petit peu de ring. On a eu du mal à démarrer. Mais une fois que la machine s'est mise en place, bon, il a fait ce qu'il fallait. Parce que c'est là où tu vois l'expérience. C'est là où tu vois les années de travail, etc. Voilà, donc je pense que c'était la meilleure façon de revenir avec un combat aussi âpre. On voit que, tu vois, c'est pas du niveau de Cambosos. Quand on voit Haney contre Cambosos, on savait que, voilà, il n'y avait pas trop de surprises. Hein, le challenge était quasiment le même. Là, ça devient de plus en plus sérieux. Et je pense que le meilleur est à venir là dans les mois à venir par rapport à cette division.
Saïd, j'ai deux petites questions pour toi. Une qui va se porter sur le physique de Loma et l'autre sur l'aspect tactique. Déjà, physiquement, j'ai beaucoup discuté avec Vincent, avec qui j'échange beaucoup et qui viendra aussi donner son avis sur la chaîne. Physiquement, on a senti que Loma n'était pas spécialement affecté par le régime. Tu vois, on l'a senti bien à la pesée, son corps était étoffé. Et même sur le ring, on était plusieurs à remarquer qu'il était bien. Tu vois, on l'a senti bien. Ce n'est pas un gros poids léger, ça c'est sûr, mais on l'a senti bien. Est-ce que tu penses qu'il va encore s'améliorer physiquement? Tu vois qu'il va encore être meilleur dans les mois à venir parce qu'il a dit qu'il avait besoin d'un peu plus de temps pour préparer Haney. Ça, c'est quelque chose, je pense que tu nous l'as déjà un peu confirmé. Et après,
écoute, c'est simple. La seule chose qu'il a dit quand tu analyses bien, à part de la politesse et puis de la petite blague en disant que Haney était un poids lourd parce qu'il était très, très gros et qu'effectivement, c'est « I need more preparation ». Qu'est-ce que ça veut dire en Lomachenko, ça? Dans la langue de Lomachenko, qui est très timide. Ça veut dire, je manque de travail, je manque de ring, je dois travailler, je dois être plus présent sur la boxe. La guerre, les problèmes de mon hôtel, de ma vie privée, m'a éloigné du ring. Et comme je te disais, le plus grand danger dans le monde de la boxe, pour un boxeur, c'est l'inactivité. C'est le plus grand danger de tous les sports de combat d'ailleurs, de tous les sports contact. Même au foot, en fait, à un très haut niveau, l'inactivité, c'est impardonnable. En plus, quand tu as 33 ans. Donc, ouais, il nous manque un peu d'activité. Mais pour quelqu'un qui n'a pas boxé presque un an et demi avec la guerre, frère, ça se dit tellement vite. Tu perds ta famille, tu perds tout ce que tu as construit. Enfin, émotionnellement, il y a des gens qui ne reviennent jamais de ça. Tu vois ? Donc, quand même, c'est incroyable qu'on a réussi à le récupérer, à l'entourer, le ramener ici, le préserver, lui donner les moyens, etc. Les moyens juste d'oublier ce qui se passe dans son propre pays, dans sa nation, dans sa famille et dans tout ce qu'il a acquis. Je te dis, le moindre dollar qu'il a gagné dans sa vie, il l'a remis dans ses hôtels. Et on sait à quel prix il a gagné cet argent. Tu vois. Donc, c'est pas évident, même s'il n'y a pas d'excuse, encore une fois.
Non.
C'est un champion et il doit être capable de passer outre ça. Mais il explique à la fin qu'effectivement, il a besoin d'un peu plus de préparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que jusqu'au combat de Haney, on ne lâche absolument rien et qu'on va remettre le Loma d'il y a une quinzaine d'années, c'est-à-dire 3 fois par semaine du sparring avec ce qui se fait de mieux. Ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de mieux. et je pense que on va retrouver le Loma qu'on connaît, parce que quand même, malgré ce que les problèmes que Ortiz a proposé, on a quand même vu quelqu'un qui avait qui était capable de s'ajuster, quoi. Je pense que c'est les capacités les plus impressionnantes chez un boxeur, c'est celui qui réfléchit, celui qui enregistre les informations et ensuite qui trouve des solutions et qui propose. Et je peux te dire que si tu parlais de sa condition physique, elle était impeccable. À la fin, il était quasiment norme. Tu rajoutais 3 rounds à ce combat et Ortiz était terminé. Il commençait à être complètement épuisé à la fin. Il a tout donné, d'accord ? Alors que Loma, lui, c'est un monstre de cardio. S'il y a un truc que tu ne peux pas enlever à Loma, autant il y a un peu de ring rust, il y a un peu d'inactivité, etc. Mais c'est un athlète de très haut niveau, et au niveau de son hygiène de vie, il est impeccable. Donc, il pouvait continuer jusqu'à 15 rounds. Moi, je le vois à la salle des fois faire des 15, ouais, même 20 rounds sans aucun problème. Et après, on va manger un steak, quoi. C'est-à-dire que là-dessus, c'est dû à sa discipline. C'est toutes ces années de rigueur, en fait, qui payent. Tu sais, tu as des gens à 40 ans, t'as l'impression qu'ils ont 60 ans. Et tu as d'autres gens à 40 ans, tu as l'impression qu'ils ont 20 ans. Tu vois, et ça, c'est, je crois que c'est l'hygiène de vie et puis les entraînements et tout ça. Et Loma, ça pêchera pas de ce côté-là. Ne t'inquiète pas par rapport à cela. La seule chose qu'il faut qu'on fasse, nous, maintenant, et ce qu'on a compris ce soir, je te dis, j'en parlais avec Bob, c'est se pencher sur les sparring, lui donner ce qui se fait de mieux au monde et le garder près de la salle et près du ring jusqu'au combat de Haney. Et normalement, on va retrouver la fameuse machine, la Matrix, le Picasso de la boxe. On va retrouver le Loma que tu aimes. Et je sais que toi, tu l'apprécies parce que tu connais de quoi est capable le Lomachenko quand on a le meilleur de Loma. Mais crois-moi, pour s'en sortir comme il s'en est sorti hier, il faut être un génie de la boxe. Parce que ce qu'a proposé Ortiz était juste.
Oui, oui. Absolument, absolument. Justement.
Mais encore une fois, regarde bien le combat. La majorité des coups, aussi beaux qu'ils soient, aussi techniques que ce soit, il touche pas Loma. Et quand il va pour toucher, la majorité, c'est dans les gants, dans les bras, etc. Les juges, à ce niveau-là, c'est plus de la rigolade. C'est très sérieux. Et alors, tu rajoutes à ça l'émotion, parce qu'on est émotionnel. Tu sais, nous, on est émotionnel, on ne voit pas les choses de la même façon. Surtout quand, consciemment ou inconsciemment, tu as pris parti pour quelqu'un. Ce n'est pas évident d'être dans la justesse objective. C'est pour ça qu'il faut laisser retomber le gâteau, se lever le matin, re-regarder le combat, et après avoir une analyse peut-être plus objective. J'ai vu ta vidéo que tu m'as envoyée à chaud. Elle est bouleversante. Parce qu'on voit un Jean-Charles ému, on voit un Jean-Charles concerné et un Jean-Charles qui est confus par rapport au volume de coups qu'Ortiz a proposé. Et puis surtout, la surprise, on ne s'attendait pas à ça. On pensait que Loma allait lui marcher dessus. Pour te dire que la division est très sérieuse, que tout le monde a faim et que celui qui va récupérer les ceintures, ça sera le vrai champion.
Tout à fait, Saïd. Alors moi, je sais que je suis sévère avec Anet aussi, mais justement, tu l'as très bien dit, ce Lomachenko qu'on connaît, on connaît Lomachenko, c'est son potentiel. Là, tactiquement, j'ai vu aussi un Loma qui n'a pas pu exprimer son plein potentiel. On l'a très bien dit dans cette vidéo, il y a le manque de ring, qui est quelque chose, comme tu l'as bien rappelé, qui est fondamental à la préparation du boxeur. Mais toi qui connais bien Loma, j'ai une question pour toi. Est-ce que ce Loma, il n'a pas non plus tout montré sur le ring pour cette reprise, car il savait qu'il était observé et attendu?
Il ne fonctionne pas vraiment comme ça, tu sais. Comme je te dis, avec l'expérience qu'il a, c'est 397 combats amateurs, c'est 396 victoires, c'est 2 médailles d'or olympiques, et plus tous les combats qu'il a fait en pro. Je pense que, tu sais, comme les grands, grands champions, ça se passe entre lui et lui. Je te jure. Plus je connais le personnage, plus je le vois dans ces moments de silence, quand il est seul, dans les vestiaires, dans les moments fatidiques où il faut passer à l'action, les moments où la pression arrive. Loma, il a un rapport avec lui, Dieu, son père. Et je pense que, en ayant la chance d'être très très près, que ça ne se passe pas entre lui et ses adversaires. Ça se passe entre lui et lui. Et là, il est de retour avec lui-même. Tu vois, quand il me prend le soir dans l'hôtel, dans un coin, il me dit « Amène-moi tous les sparring, ce qui se fait de mieux et ne me lâche pas. » J'ai compris que c'était un challenge personnel qu'il s'est donné à lui-même. Haney, quand il vient, t'as vu, il n'y a rien de personnel. Il n'a pas besoin d'insulter. Il ne fait même pas de show. Il ne dit pas « Oui, je veux ce combat. » Il n'est même pas dans la promotion. Il est dans « Ouais, t'es un top combattant, je suis un top combattant. Ok, j'ai besoin d'un peu plus de préparation. Ouais, et ben, moi, je te montrerai. Ben oui, ben moi, je serai prêt. Voilà, je pense que, comme tous les vrais grands champions ou les grands artistes, ça se passe entre lui et lui avant que ça se passe entre lui et les autres. Voilà ma théorie par rapport à Vassili Lomachenko.
Maintenant, j'aimerais bien ton avis sur le potentiel combat contre Haney, qui serait la suite logique des choses. Et je pense, et je l'ai dit dans la vidéo à chaud, je ne sais pas si tu as entendu, que je pense qu'il sera bien meilleur Lomachenko, que le Lomachenko qu'on a vu là, ce n'est pas le Lomachenko qu'on aura contre Haney. Par contre, depuis qu'on a discuté, ça trotte dans ma tête. Je pense quand même que Haney, c'est le profil emmerdant pour Loma. Je t'explique. Les profils comme Davis ou Shakur Stevenson, c'est des boxeurs généreux qui s'engagent. Et Loma, technicien comme il est, il se régale pour travailler en contre, vraiment faire déjouer la boxe de l'adversaire. Mais les boxeurs comme Haney, qui sont des boxeurs qui ont une boxe très fermée, ah, surtout qu'il y a l'avantage physique, ça, il faut qu'on en parle, ça, de cet avantage physique. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ce profil tactique de Haney, il peut être embêtant quand même pour
Alors, je
Loma?
vais répondre à ta question en te posant une autre question. Qui tu vois comme vainqueur après le Ortiz qu'on a vu ce soir entre Haney et Ortiz?
Ortiz. Ortiz.
Je ne crois pas que ta réponse est là.
Ouais.
Donc, je
Ok,
pense que
ok.
ce que Ortiz nous a proposé hier soir face au Haney qu'on a vu contre Combosos, mon Jean-Charles, je paye pour voir le combat. Ah, je paye. Ah, je paye même le pay-per-view pour voir ce combat. Et je te dis, Haney, c'est pas garanti du tout qu'il gagne. En plus, dans la fleur de l'âge, le Ortiz, etc. Gaucher. Non, encore une fois, je pense que si Loma a été capable de gérer Ortiz alors qu'il n'est pas à 100%, la façon dont il a géré avec cette intelligence, cette expérience du ring, parce que c'est pas beau à voir, effectivement, parce qu'on n'a pas eu le Loma qu'on connaît. Mes frères, il les a emmenés dans les eaux profondes. Je t'ai rajouté deux petits rounds et c'était terminé pour notre copain Ortiz. À l'époque, les combats, c'était 15 rounds. Hein. À l'époque des grands champions, c'était 15 rounds. Après, c'est passé à 12. Alors, on a des 10 rounds, des fois des 8 rounds, des 6 rounds. Mais, je veux dire, tall tall, mano y mano, cœur contre cœur, un combat, c'est du début à la fin. Tu vois, on va dire les championship rounds, non, les plus importants dans un combat de boxe, c'est les trois derniers rounds. Bon, haut la main, on comprend que l'autre commence à fondre, quoi. Tu vois. Mais ouais, je serais curieux de voir un Haney contre Ortiz. Et je pense que ta réponse se trouve dans le dénouement de ce combat. Tu vois. Je pense que Loma va. Là, il y a les quatre ceintures. Il a même donné la ceinture à Ortiz, pas parce qu'il a perdu. Parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà eu toutes les ceintures. J'ai déjà gagné mon pognon. J'ai déjà tout fait dans la boxe. J'ai rien à prouver à personne si je suis là. C'est pour atteindre mon rêve personnel. C'est pour ça que je te dis, ça se passe entre Loma et Loma. Je veux mes quatre ceintures et je les aurai. Maintenant, la motivation est là. Maintenant, l'inactivité, on a dépoussiéré l'histoire. On va avoir Loma que tu connais. Crois-moi. Pour qu'il me prenne, je t'ai dit à la fin, il me dit, Saïd, ramène-moi les meilleurs des sparring et me fais aucun cadeau. C'est parti. Donc, j'adore quand j'entends Loma comme ça. Ça veut dire qu'il est en accord avec lui-même. Et quand tu connais l'importance du cerveau et du corps, et que quand ils sont en accord tous les deux, hein, des fois tu as envie, mais ton corps veut pas. Des fois ton corps veut, mais toi t'as pas envie. Enfin, c'est tout un bordel. Là, on a une force pure, quoi. C'est une ligne droite. Le meilleur reste à venir. Alors, oui, on est un petit peu frustré. Je te comprends, Jean-Charles, moi le premier, mais c'est un sport compliqué, la boxe. La boxe, c'est pas le football, frérot. On ne fait pas semblant de. Tu peux jouer au football, tu peux jouer au tennis, tu peux jouer à tous les sports, mais tu peux pas jouer à la boxe, frérot. Et le meilleur exemple, c'était hier soir.
Après, frustré, moi je me suis régalé, c'était un beau combat de boxe, hein. C'était un super beau combat de boxe. Saïd, donne-nous un peu la température là, voilà, c'est un peu retombé, ça y est, Loma est revenu, il a fait son combat de reprise, il l'a gagné, maintenant on parle de Haney, des ceintures, donne-nous la température, toi qui es dans le clan, qui es avec eux, tu les sens comment? Déterminés, vous vous êtes comment? Vous êtes un peu encore dans les... Il y a encore la guerre qui est encore présente.
Non, d'abord, on est d'abord très content qu'il n'y a pas de blessure. Première chose. D'accord? À ce niveau-là, c'est le point, pas de blessure, tout va bien. Content que dans le moral, ça va. On sait exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mystère. C'est un combat difficile, mais on l'a gagné et on l'a gagné vraiment. Tout le monde parle, mais au fur et à mesure des analyses, tout le monde comprend qu'il fait ce qu'il faut pour gagner le combat. Pas de façon la plus spectaculaire. Ortiz est un client. Donnons du respect à tous ces gens qui s'entraînent et qui ont aussi faim que Loma et qui ont toutes leurs cartes à jouer, bordel. C'est un sport compliqué, violent, dur. Comme on dit, only the strong survive. Seulement les plus durs passent pour de vrai, tu vois. Donc c'est pas là, on est dans la crème de la crème de la crème du top. Alors nous, en tant que passionnés, on pense que c'est la PlayStation. C'est pas la PlayStation, frérot. C'est des vrais êtres humains avec un talent hors du commun. Comme j'expliquais toujours, mets une paire de gants, 2 secondes, juste comme ça pour le kiff, par curiosité, et va taper dans un sac. Et ensuite, va voir un combat de champion. Et tu vas comprendre, tu pourras apprécier le talent et te dire, oh waouh, effectivement, je comprends mieux pourquoi on appelle ces gens-là des champions. Mais on a tellement galvaudé tout cela. C'est pas que de monter sur le ring, déjà en soi, c'est déjà un truc incroyable d'être capable de monter sur un ring. Peu importe ton niveau, c'est déjà un acte exceptionnel. Mais de monter, de gagner, de le faire avec la manière et d'être capable de trouver des réponses aux équations, aux mathématiques supérieures que des boxeurs te posent, parce que c'est ça en fait, hein, à un certain niveau, c'est plus qu'une partie d'échec de très haut niveau. C'est incroyable. Donc Loma, il a quand même encore une fois été capable d'analyser un problème très complexe, très très complexe en la personne d'Ortiz. Il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas passés avec ce qu'il a proposé Ortiz. Alors oui, effectivement, Ortiz, il va apprendre. Il va apprendre à se rapprocher un peu plus, à taper un peu moins dans le vide et faire que tout ce qu'il fait, et qu'il fait très, 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 très bien, ben, soit un peu plus effectif. Parce qu'en boxe pro, ça ne pardonne pas. Tu vois, on n'est pas à la touche et on n'est pas à faire une démonstration de shadow boxing. La pro, c'est... faut toucher. Et quand tu analyses, tu comprends que... Alors oui, ce n'est pas aussi, j'ai envie de dire... ce que Loma nous a appris, c'est-à-dire à marcher sur les adversaires, les étouffer, presque les noyer, non, en eau profonde. Mais je t'ai expliqué les raisons, mais sans aucune forme.
C'est un combat de reprise.
Ouais, sans aucune forme. Mmh. C'est pas. Alors tu sais, quand on dit tune-up fight, combat de reprise, ah, putain, Jean-Charles, c'était un combat de niveau championnat du monde avec une simple clé hier. Quand tu vois ce qu'il propose, putain, mais c'était. Il faut presque appuyer sur la touche ralentie pour voir à peu près ce qui se passait à des moments.
Bien sûr.
Ortiz était brillant, vraiment brillant, brillant. Mmh. Et puis surtout décomplexé, complet. Incroyable, complètement décomplexé. Sans... Il a saisi sa chance. Et quoi qu'il arrive, même si Ortiz a perdu ce combat, il a marqué un grand coup dans la division. Et je pense qu'il va falloir compter avec lui. Il va falloir compter avec Ortiz à l'avenir. Parce qu'il va en surprendre plus d'un. Rappelle-toi, c'est un gaucher compliqué. Très, très compliqué. Alors, une autre chose. Loma, il a nettoyé la catégorie des 130. Il est monté à 135. 135, frérot, les mecs, t'as vu la taille des mecs? T'as vu, à chaque fois, Loma, il est plus petit. Les mecs, ils ont les épaules, la largeur de corps. C'est pour ça que d'ailleurs, il a plaisanté avec Haney quand il a dit « Mais toi, t'es un lightweight, mais on dirait un heavyweight. » Parce que les mecs, ils sont capables, hors combat, de monter à des poids incroyables. Et après, se faire souffrance pour être au poids, pour avoir l'avantage de la force, etc. Donc, Loma, il a à dealer avec la taille, la catégorie, le talent des mecs. Hey, sincèrement, Loma, c'est un petit génie dans toute cette histoire quelque part parce qu'il a déjà nettoyé tellement sa catégorie qu'il n'y a plus personne, qu'il est monté. Alors, des fois, on lui parle de la catégorie 140. 140, assez. Mais vous êtes fous, moi, je ne laisserai jamais, jamais Loma monter en 140. Parce que là, ça devient dangereux et sa vie est en danger.
Et de redescendre, Saïd, de redescendre, ça serait possible.
Redescendre, c'est peut-être possible, ça, s'il y a un challenge à la hauteur. On en a parlé une fois. Ouais, mais tu sais, Loma, là, maintenant, ce qu'il veut, et je vais te le dire, c'est pour ça qu'il faut rester sur lui et lui donner un peu de respect. Il veut les ceintures. C'est son dernier truc final. C'est la cerise sur son gâteau. Le gâteau, il l'a déjà. Il veut mettre juste la cerise. Et il aurait dû le faire avec Camboso. C'était un combat facile. Hein. Rappelle-toi que si Haney est champion aujourd'hui, c'est parce que Loma n'y a pas été. Attention. Rappelle-toi une chose, mon frère. Que si Haney aujourd'hui a toutes les ceintures, c'est pas parce qu'il a combattu et qu'il les a gagnées. Oui, mais contre qui? C'était Loma qui devait combattre. À cause de la guerre en Ukraine, il a décidé de rester près de sa famille, près de son bien, près de sa patrie. Il n'a pas été chercher tout ce pour lequel il a travaillé toute sa vie, Jean-Charles. Toute sa vie. Donc ça en dit long sur le personnage. Parce que normalement, les ceintures, c'est lui qui les a. Déjà. Il serait déjà en train de les défendre et il aurait peut-être même déjà fini sa carrière de boxe. Donc, respect à ce
là,
monsieur.
Là, tu nous dis que s'il récupère les titres, c'est possible qu'il arrête.
Bah, il va récupérer, il va défendre 2-3 fois et après, oui, moi, je vais demander.
Ah, d'accord, d'accord.
Ah, bah, oui, moi, je veux qu'il ait... Tu sais, mon rôle dans l'équipe et à l'avenir avec les boxeurs, c'est être sûr, avant même des victoires, avant tout, quoi que ce soit, c'est être sûr que les boxeurs finissent leur vie et leur carrière de façon confortable et qu'ils ont de quoi vivre dans la dignité et aussi de pouvoir s'occuper de leur famille. Il y en a assez de tous ces gens qui ont tout donné sur un ring et qui finissent avec rien. Rien. Ça, c'est moi qui m'engage là-dessus. D'accord ? Ça, moi, j'aime la boxe, pas pour le boxing business, mais pour les boxeurs et pour la beauté du geste et pour la beauté du sport. L'art pugilistique. Non ? Le noble art. Donc, je ne peux pas aimer ce sport sans aimer les acteurs principaux de ce sport qui sont les peut-être personnes plus importantes de tout ce sport putain de business, c'est les boxeurs. D'accord ? Moi, je suis un artiste et j'ai ce lien avec eux. Pour moi, c'est des artistes aussi. Donc, je ferai tout en mon pouvoir, avec mes connexions, avec les gens que je connais, avec tout pour que les boxeurs qui travaillent avec nous et même ceux qui sont autour de nous finissent leur carrière dans des conditions confortables et dans la dignité et qu'ils puissent s'occuper d'eux et de leur famille sans jamais avoir à travailler. Ça, c'est la première des choses que je fais. D'accord ? Ça, c'est essentiel. Il y a eu trop d'histoires depuis les débuts de la boxe, depuis l'époque du baron comment il s'appelait ce baron anglais là ?
Moi, j'ai son nom.
Le fameux baron. Kingsbury.
Kingsbury,
qui a inventé les règles de ce sport. On n'a que des histoires de drames, de fin de carrière, de boxeurs qui finissent dans la merde. Excuse mon expression. Dans la merde, il n'y a personne pour les aider. Donc après nous avoir tous régalés, après donné de leur personne, avoir laissé leur âme sur le ring pour nous faire plaisir. Bon, on va essayer de rompre cette malédiction. Ça, c'est la première des choses. Donc oui, une fois qu'on récupère les ceintures, 2-3 défenses, et on sort la tête haute. Et Vassili, tu as mérité ta retraite. Il adore la pêche. Il m'emmène souvent à la pêche, à la chasse, tous ces trucs-là. On ira pêcher au Maroc le thon, on ira pêcher l'espadon et on mangera du couscous et des macros et des chebakia. Voilà, en gros, comment je vois. Était invité, était le bienvenu. Alors, Jean-Charles, pour revenir à toi, mon petit coquin, tu sais, quand tu dis tu m'as vendu du rêve, alors sache que le rêve est en train de devenir réalité, mon pote. Tu vas venir, je ne vends jamais de rêve, d'abord je ne parle pas dans le vent, tu vas venir, on va trouver le combat qui te peut-être le prochain Usyk. Je vais t'annoncer, on va faire un spécial Usyk et je vais t'annoncer. Ah ouais. Ça c'est Usyk, hein. Tiens.
Ah ouais, magnifique.
J'ai récupéré Loma m'a fait cadeau. Je te le montrerai la prochaine interview qu'on a. Je vais mettre la combinaison que Loma a, parce qu'à chaque fois j'ai droit à un cadeau exceptionnel parce que je fais collection de tout cela. Moi j'ai les chaussures, les shorts, les trucs de tous les combats. Je te lui montrerai un jour ma collection, tu vas devenir fou. Je collectionne tout comme un gamin que je suis et passionné. Et Loma m'a filé le t-shirt et le survêtement avec lequel il est rentré, qui est pour moi un truc incroyable. Il est d'une beauté façon militaire, mission. Celui-là, il est historique, quoi. Donc
il est
ça
beau, ouais, il est beau.
Je les encadre, en fait. Je les encadre et je les mets dans des cadres, comme j'ai les tenues de beaucoup, beaucoup de boxeurs très célèbres. Je t'en parlerai. Mais ça, on fera une spéciale musée, collector. Parce que quand tu es un passionné comme ça, il te faut un bout, il te faut un truc. Alors j'ai aussi les bandages souvent de très très grands champions. Je récupère tout ce que je peux en fait, tu vois. Mais pour revenir à mon invitation, oui, c'est sérieux. Je t'ai dit, je préfère parler avec toi qu'avec RMC ou toutes ces chaînes qui m'appellent parce que t'es pas. Il y a plein de gens qui m'appellent pour faire.
Ah oui.
J'ai rien fait avec personne, jamais. Tu es le seul. Et donc cette exclusivité, merci, on va la garder en commun parce que je t'ai dit, tu es un vrai passionné et je sais d'où tu viens. Et je sais d'où je viens. Et il y a un truc qui dit dans la vie, si tu ne sais pas où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Tu vas venir à un combat, peut-être le prochain Usyk, ou Lomachenko, ou peut-être voire même les deux. Tu auras accès au vestiaire, et accès au boxeur, et tu seras au bord du ring. Et tu te feras ton spécial. Et ça, c'est pour toi et pour tous ceux qui te suivent. Pour tous les gens qui te font confiance. parce que tu as un travail monstrueux. Et comme je t'ai dit, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de truc. Par contre, il y a plein de problèmes de famille, il y a toute la réalité de la vie à gérer. Et ça, c'est tout à ton honneur. Donc, je vais t'envoyer un peu quelques sponsors. Donne-moi un peu de temps parce que j'ai beaucoup, beaucoup de taf. Et puis, j'ai mon film qui commence. Je commence un nouveau film avec Mark Wahlberg. Je vous rappelle que mon métier principal, c'est acteur. Hein. Oui. Ma passion, c'est la boxe. Mais avec quoi je paye mon loyer, c'est acteur. Avec quoi j'ai acheté les pourcentages de la boîte, c'est grâce au cinéma. Donc, il faut quand même que je leur dise que je suis encore là. Donc, je vais aller à Atlanta pour rejoindre Mark Wahlberg pour commencer un film qui s'appelle The Family Plan. C'est un gros film d'action, de super-héros, de pas de super-héros, mais d'agents secrets. Et ça se tourne entre... Alors, ça, c'est drôle, parce que ça se tourne entre Atlanta et Las Vegas. Et bientôt, on a un autre combattant à nous qu'on a signé. Attention, surveille bien ce combattant. Gianni Beck, l'Ouzbek, qui va faire une défense de titre de champion du monde. Frérot, pour nous, je te le dis, c'est notre prochain poulain. C'est celui qui a fait tout ce qu'il fallait qu'il faire. C'est sur lequel on croit et c'est lui sur lequel on mise juste après. Dans la ligne, là, il y a Bloma, Usyk. Et le troisième plus important pour notre équipe, c'est Gianni Beck. On y croit dur comme fer. Il a Bobby McGuirt dans son coin. Frérot, c'est la boxe ouzbek à son paroxysme. Il va faire beaucoup de surprises. Et ensuite, comme je te disais, on a aussi signé. Je t'ai envoyé la vidéo avec Floyd Mayweather et tous les enfants de Fernando Vargas et Fernando Vargas lui-même, car on vient de signer tous ses enfants, dont pour moi le plus doué des trois, c'est Emilio. Et je pense qu'il va faire aussi quelques étincelles. Parce qu'il a le look, il a le style, il a l'ADN. Et il a la bonne équipe, et puis il a nous surtout. Donc, quelques combats excitants en perspective à venir. Mais tu seras invité comme promis, ce n'est pas du rêve qu'on vend, c'est de la réalité. Et c'est moi qui te le promets, qui te le dis, et ça se fera, Inch'Allah.
Juste Inch'Allah.
Voilà.
Inch'Allah.
Voilà. Et tout va se...
Je te suis vraiment reconnaissant, ne serait-ce que pour partager avec nous, parce que tu sais, j'ai eu des super beaux retours, tu as dû les voir sous les vidéos qu'on a faites ensemble, et vraiment, pour les passionnés de boxe en France, on n'a pas souvent des personnes comme toi qui sont si proches de ces boxeurs légendaires. Je vous le dis, les gars, c'est des boxeurs légendaires que Saïd côtoie, et ils nous partagent des exclusivités, donc je te suis très reconnaissant de nous accorder déjà ça. Merci Saïd.
Et on va te faire aussi un petit truc, tu sais, comme je suis ami avec Terence Crawford et tous ces gens, tu sais, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous. Je commencerai tout doucement, donne-moi un peu de temps aussi, parce qu'il y a des priorités, à te faire des petites vidéos. C'est quoi ton site? C'est Box Attitude?
Box Attitude, ouais.
Voilà, spécial, this is Terence Crawford, special touch to Box Attitude, Jean-Charles, we love you. On va commencer, parce qu'il faut que tu te détaches maintenant. Je vais être un peu l'ange gardien de tout cela, parce que tu vois, on a l'impression que c'est pas grand-chose. Mais en fait, quand tu as tous ces champions qui commencent à reconnaître ton site et que tu en as des petites dédicaces, c'est comme les radios, tu sais, avec les grands chanteurs, etc. Eh bien, ça va te faire plaisir. Mais surtout, eux, ils savent reconnaître les vrais passionnés de boxe et le boxing business des grosses chaînes de télé. Et moi, je suis là d'ailleurs pour leur rappeler, pour leur traduire, parce qu'ils ne parlent pas automatiquement français. Mais they know. Quand je leur dis, that's a real guy. That guy knows about boxing. That guy loves boxing. Jean-Charles is the man. So voilà, on va redonner. On va finir avec cette belle phrase. On va redonner à Jean-Charles ce qui appartient à César. On va le redonner à Jean-Charles, un truc comme ça.
Merci à toi.
Merci à toi, frérot. Merci à toi. Je te tiens au courant. Je t'envoie encore quelques petites vidéos. On essaye de regarder le combat qui te plaît à venir dans notre équipe. Il y a Gianni Beck, mais bon, il va falloir venir à Vegas. C'est un peu loin. J'essaie de faire un truc qui n'est pas trop compliqué. Il y a une très, très grosse nouvelle qui arrive pour Usyk, que je t'annoncerai en exclusivité. Et peut-être c'est ce combat-là auquel tu pourras participer parce que normalement, sans en dire trop, ça devrait se passer en Europe. Pas trop loin.
Oh, d'accord. Oh, super. Bah écoute, de toute façon, on se revoit dans quelques jours pour faire une spéciale Usyk, Alexander Usyk.
Ouais, il y a beaucoup de choses à dire.
Bon courage. Je sais que là, tu as encore beaucoup de boulot. Donc, bon courage.
J'ai pas dormi et je dois m'occuper de tout là. Mais pour les disciples de la boxe et pour Box Attitude et pour Jean-Charles, on prend le temps. Voilà mon pote.
Force à toi, je vous dis à très bientôt tout le monde. Fighting!
Bisous mon pote, à très bientôt Jean-Charles, au bord du ring. À très très vite. Et merci encore pour tout.
Bye. C'est parfait, merci Saïd, merci beaucoup.
Bye bye mon frère.
Ciao, ciao. Ah, c'était magnifique, super, super. Et allez, on coupe. Hein.